À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonsoir, bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir Serge. Alors, c'est première émission de l'année. Alors, ben, meilleurs voeux à tous. Tanti auguri a tutti pour cette année 2015. Alors, on aurait une liste de voeux importants à faire. Mais on va déjà faire nos meilleurs voeux à l'équipe de Couleur FM, à Laurent, à Sandrine, à Véronique, à Titane, aux bénévoles, aux anciens, Gérard, Francis et aux nouveaux bénévoles, tous ceux qui animent donc les émissions de Couleur FM, bien encadrés évidemment par Laurent, Sandrine, Véronique et Couleur FM de cette association Radio Jacasse avec Titane aux manettes. Meilleurs voeux aussi aux auditeurs, parce que écouter Couleur FM, c'est une très bonne initiative, mais c'est aussi une très bonne démarche, et c'est encourageant de savoir que les émissions sont écoutées de plus en plus, si mes chiffres sont exacts. Et meilleurs voeux aussi, meilleurs voeux à toi Serge, et à toute notre association INIS.
Mes meilleurs voeux aussi, hein, à tout le monde.
Serge qui est devenu un accoutumé de l'émission maintenant. Meilleurs voeux à l'Italie, ce pays plein de contrastes et que nous aimons, ce pays merveilleux avec une richesse culturelle incroyable, richesse gastronomique, et puis pays à la fois complexe et attirant, et puis qui a beaucoup d'attraits, notamment touristiques, montagnes, volcans, îles, mers, histoire, enfin. Et puis, meilleurs voeux à notre pays de France, qui, elle aussi, connaît des moments difficiles, comme l'Italie. On souhaite aussi qu'il y ait un peu d'optimisme qui arrive, parce qu'en ce moment, on est dans une période particulièrement morose, peut-être un peu trop entretenue, d'ailleurs, ce qui empêche quelquefois d'avoir du recul sur les choses. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez drôle, si on peut dire. Il y avait un sondage récent où on disait que les deux pays les plus pessimistes étaient la France et l'Italie. Ce qui est nouveau pour l'Italie, parce que l'Italie était plutôt en général un pays optimiste. Mais enfin, ces deux pays-là sont les pays les plus pessimistes. Mais quand on voit dans les sondages quels pays se disent optimistes, on se dit que finalement, il faut peut-être prendre un peu de recul sur les choses. Voilà. Et donc, espérons que toutes ces périodes de crise, ou dites de crise, arrivent à se solutionner et qu'on ne voit pas tout ce qu'on peut voir en ce moment de désagréable. Voilà, alors sinon, dans les nouvelles de ces derniers temps, entre fin et début d'année, une nouvelle que j'ai trouvée plutôt sympathique et assez drôle, il y a une Canadienne qui s'était rendue à Pompéi, comme beaucoup de touristes, mais il y a plus de 50 ans. Et puis, comme beaucoup de touristes, malheureusement, elle a cru qu'elle pouvait emmener quelque chose de Pompéi comme souvenir, peut-être pour mettre sur sa cheminée ou l'encadrer. Elle avait pris, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, elle avait volé, enfin elle avait peut-être pas conscience de le faire, mais c'est ce qui a été fait, un petit morceau de ruine, je crois que c'était un petit bout de tuile, et puis elle avait emmené ça chez elle, et puis avec l'âge, la maturité, elle a été prise de remords. Mais 50 ans après, quand même. Et étant prise de remords, elle a envoyé en retour à Pompéi, à la direction du site, ce qu'elle avait pris 50 ans avant. Alors évidemment, au Canada, il y a eu des échos, mais il y a eu des échos un peu de partout. Et d'un seul coup, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que finalement, chez eux, ils avaient un petit bout de Pompéi aussi. Il y en a même un qui a envoyé un petit morceau de fresque qui a permis de reconstituer la fresque initiale. Donc la direction du site de Pompéi a reçu plein d'objets, des fragments de ci, des fragments de ça, et avec une spontanéité un peu téléguidée, c'est assez incroyable. Mais le plus fort, ça n'a pas tellement de valeur, ni historique ni artistique, le plus fort, c'est qu'un de ces, je ne sais pas si on veut dire emprunteurs, Mais là, c'était plus tout à fait de l'emprunt, c'est qu'il avait trouvé un papillon sur son pare-brise parce qu'il était en infraction de stationnement. Et il n'a pas payé l'amende, comme tout touriste étranger, se disant, de toute façon, je ne suis pas chez moi, ils ne me retrouveront pas.
Moi non plus à l'Aquila.
Mais il a envoyé le paiement de son amende, lui aussi, 30 ou 40 après. C'est assez extraordinaire, assez extraordinaire. Voilà, enfin, c'est une petite anecdote assez drôle, finalement. Ce qui est moins drôle, c'est de piller sur les sites. Malheureusement, ça se fait beaucoup. Voilà, alors deux nouvelles par contre qui, elles, sont pas drôles du tout. Et, deux décès, en fait. Celui de Pina Jau. Alors Pina était une amie d'Inis, hein, qui était l'épouse de Totor Elai, le groupe Sardes qu'on a vu souvent ici, qui était un ami d'Inis depuis vraiment très très longtemps. Et ouais. Tous deux avaient monté un groupe à Irgoli, dans la province de Nuoro, dans le golfe de Rosei. Et ils sont venus plusieurs fois chez nous, mais ils sont venus plusieurs fois en France tout court, notamment à Paris. Et la dernière fois où ils sont venus, c'était en 2009 pour participer aux 20 ans de notre association. Et ils étaient même venus dans les studios de Couleur FM, on en aura un petit témoignage tout à l'heure. Et ils étaient venus présenter la musique traditionnelle sarde, et notamment un groupe de jeunes qu'ils encadraient, où évolue leur fils Sebastiano, le groupe Sospitsinos. Pina était jeune, elle était passionnée de poésie, accueillante, elle était fière de sa terre, et vraiment c'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer. Et puis un autre décès de quelqu'un qui a une aura internationale, c'est Pino Daniele. Et Pino Daniele qui est décédé il y a trois jours, qui est décédé d'une crise cardiaque, il allait avoir 60 ans au mois de mars. Alors Pino Daniele était né à Naples, mais il vivait en Toscane, et alors, il est arrivé en décédant à l'hôpital Sant'Eugenio Eugenio de Rome. En fait, il avait une maladie cardiaque depuis de nombreuses années, près de 27 ans, je crois. Mais enfin, il vivait avec, comme ses frères d'ailleurs. Et il avait eu plusieurs traitements et interventions qui lui permettaient de rester en vie, de continuer à faire de la musique, même s'il faisait un petit peu moins de scènes. Et il vivait donc dans la région de Grosseto. Alors il y a eu toute une série de circonstances un petit peu désastreuses. Bon, son médecin traitant le savait quand même condamné à plus ou moins longue échéance avec ce type de maladie. Mais là, il était à Grosseto, il s'est senti mal à une soirée entre copains. Donc sa famille avait appelé l'ambulance, mais plutôt que d'attendre le médecin ambulance, il a préféré qu'on l'emmène directement à Rome, qui est à 120 km quand même. Pour voir son médecin traitant, en qui il avait une confiance aveugle. Le problème, c'est que 120 km, ça se fait pas, même avec une voiture rapide, ça se fait pas en 5 minutes. Et en plus, manque de chance, la voiture dans les faubourgs de Rome a crevé. Donc du temps de réparer la roue et autres, il est arrivé, il est décédé. Rien ne dit qu'il ne sera pas décédé, mais bon, c'est des circonstances un peu particulières. Alors Pino Daniele, c'était un Napolitain, hein, qui a chanté en napolitain et en italien. Et c'était un excellent guitariste qui était autodidacte. Et il a été aussi, bon, bien entendu, très inspiré par la musique traditionnelle napolitaine, mais aussi par le jazz, par le rock, par le blues. Et il a travaillé avec des grands noms, hein. Il a joué avec Eric Clapton, avec Pat Metheny. Il avait fait plusieurs albums, bien sûr. Le premier de ses albums connus était Terra Mia en 1977, donc il avait que 22 ans. Hein. Et c'était un album très lié à la tradition napolitaine, dont une chanson qui s'appelait Naples. Après, donc, il a eu ses influences jazz, notamment de Louis Armstrong, et puis rock et blues. Et on l'a souvent, dans les années 90, c'est au début où on commençait à parler de world music, ce terme qui englobe beaucoup de choses. Et il était souvent identifié à ce mouvement qu'il portait dans le monde entier. Hein. Il est venu en France, bien sûr. Un de ses plus gros albums, ça a été Non calpestare i fiori del deserto, qui s'était vendu à 1 200 000 exemplaires, je crois. Et son dernier album date de 2009. Alors, il était au début très engagé politiquement, aussi au niveau écologique. Et Mais c'était une personne charmante en plus. C'était quelqu'un de vraiment bien, mais c'est un monument en italien. C'est vraiment un grand, grand chanteur. Donc on va écouter, pour rendre hommage à Pina et à Pino Daniel, et on va écouter dans la foulée, on va dire, un tout petit bout de l'enregistrement de Pina quand elle était venue dans les locaux de Couleur FM. Et à une question de Véronique qui lui demandait d'évoquer le pourquoi elle avait choisi la musique traditionnelle, elle expliquait très bien en quelques mots qu'en Sardaigne, on ne choisit pas la musique traditionnelle. On est musique traditionnelle, c'est-à-dire que c'est dans les gènes, et tout est prétexte à musique traditionnelle, soit le chant, soit la danse, la moindre musique, les gens dansent, se mettent en cercle, c'est ce côté convivial, en fait, qui se transmet de génération en génération. Et puis ensuite, dans la foulée, donc on entendra Oscarafone, qui serait la traduction napolitaine de l'oscarafaggio, en italien, c'est-à-dire le cafard, qui était donc composé par Pino Daniele et qui est inspiré d'un proverbe napolitain qui dit que ogni scarafaggio piace a sua madre. Ça veut dire que tout cafard plaît à sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute maman trouve son fils ou sa fille, son enfant merveilleux, le plus beau du monde, le plus intelligent, même si c'est pas vrai.
Même si c'est pas vrai.
Voilà.
Ouais.
Donc ça lui permet dans cette chanson d'évoquer effectivement des gens aussi un petit peu brimés, mais à qui ils peuvent avoir de l'espoir. Donc Pina Giau, dans une interview de Couleur FM
97.1
de 97.1 de 2009, l'interview, et puis au Scarafone de Pino Daniele.
È una scelta di continuazione, una scelta abbastanza naturale, per noi è una cosa naturale.
Sì, non è quasi una scelta. Ecco.
No, non è una scelta, è qualcosa che viene, che si continua, che ognuno di noi ha dentro e che lo fa naturalmente. Il canto, il ballo, come diceva Totore, da noi è una cosa ancora vivente, è normale sentire la musica e si forma questo cerchio, oppure in un'area di festa con una buona compagnia dare una via al canto, o per una serenata o puramente proprio per stare con la compagnia.
Pino Daniele. Donc Serge, tu vas nous proposer une balade en montagne, si j'ai bien...
Eh bien, oui, puisqu'on va parler du Val d'Aoste.
Voilà, dans un petit instant.
Voilà.
Bah alors, comment y accéder ?
Alors, comment y accéder ?
Il y a une voie simple.
Il y a une voie simple.
Mais tu n'aimes pas bien.
Le tunnel du Mont-Blanc, j'aime pas trop parce que ça sent pas bon en vélo dedans. Et puis, je sais pas si j'arriverai à faire la dizaine de kilomètres. Par contre, pour aller dans le Val d'Aoste, il y a un chemin qu'il faut absolument prendre. C'est le col du Petit Saint-Bernard. Alors généralement, passer un col, ça fait toujours un peu peur à celui qui n'a pas l'habitude en voiture. Enfin, moi, je le fais en vélo, mais en voiture, ça peut se faire. Parce que c'est un col qui fait 28 km de long, qu'on part dans la banlieue de Bourg-Saint-Maurice à C. Et il a la particularité de monter à près de 2200 mètres. On part à 700 mètres, en gros, donc ça fait un bon dénivelé. Et la pente est peu raide, elle fait 5% et demi, donc le maximum est à 8,5, donc quelque chose qui se fait bien. Et la route, au départ, est très très large, donc j'y avais vu, sans aucune documentation, la main napoléonienne au départ, pour passer les canons, tout ça. Et en fin de compte, non, la route a été faite en 1858, et elle a été terminée en 1866, donc il a fallu un certain temps pour faire cette route. Et c'était une route nouvelle par rapport à l'ancienne route. L'ancienne route qu'on découvre après avoir passé la station de La Rosière vers 1850 mètres à peu près. Et sur la gauche, on découvre l'ancienne route qui va en Italie. Et à chaque fois que l'on parle d'ancienne route dans les Alpes, souvent ça évoque le sel, puisque côté français il y a Moutier. Et puis dans sa banlieue, il y a Salins, donc où il y avait des salines. Et donc c'était une des routes du sel, qui dit sel, dit contrebande, douanier, tout ça. Et on suit cette ancienne route le long du petit vallon de la Reclus, et on arrive ensuite au col. Et le col, si vous allez en Italie, enfin au Val d'Aoste, prévoyez au moins une heure au col, parce que, bien sûr, il y a la statue de Saint-Bernard. Il y a l'ancien hospice où, alors j'espère ne pas confondre, mais on voit encore des balles de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des restes sur la frontière, des restes de ferraille qui avaient été mis en travers pour barrer l'accès. Et puis aussi, il y a des restes de marques au sol d'occupation du néolithique. Donc... ça s'appelle, le Cormac,
breton.
Voilà, c'est
ouais,
ça,
ouais, c'est ça,
un
ouais.
nom qui, un qui peu breton. Est... Et l'arrivée, ensuite la descente, elle, côté Italie, a un côté un peu plus dur, mais enfin ça n'a rien de très dangereux comme parcours. Et on arrive donc à Pré-Saint-Didier et c'est vrai que moi, je trouve le Val d'Aoste est une région qui n'est pas très dépaysante pour nous, puisque déjà, la langue, tout le monde parle français.
Tout le monde, moins maintenant. Quand même.
Moins, quand même.
Ah, beaucoup moins. Bon. Mais elle est obligatoire.
Elle est obligatoire.
Absolument. Oui. Mais comme il y a eu des migrations dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gens, on en reparlera tout à l'heure, qui ont quitté le Val d'Aoste à un moment, puis par contre, beaucoup d'arrivants aussi. Donc, ce qui fait que dans la on parle moins, mais bon, le français est très présent, évidemment. J'ai repensé, c'est Cromlech ou Krumlech.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Cromlech.
Voilà. Ou Lech, on ne doit pas prononcer.
Donc, c'est très intéressant de voir ça, et je crois que pour passer le col du Petit Saint-Bernard, il faut se documenter avant et bien prévoir une heure en haut. Donc, une fois qu'on est arrivé dans la vallée, on passe à Aoste. Et une fois qu'on a pris le Petit Saint-Bernard, on va faire le Grand Saint-Bernard.
Voilà.
Alors, le Grand Saint-Bernard n'a rien à voir avec le Petit Saint-Bernard.
Ah non, si, c'est grand.
Sinon, c'est grand, oui. Alors, lui, il fait 2500 mètres d'altitude, mais sa fonction n'est pas du tout la même, parce que le col du Petit Saint-Bernard en France est un col touristique. Maintenant, puisque avant, l'ancienne route reliait Vienne en France, qui était une ville importante du temps des Romains, à Milan. C'était la route la plus directe. Mais le col du Grand Saint-Bernard, lui, c'est une autoroute maintenant, quoi. Donc c'est fait pour prévoir le passage des camions. Surtout côté suisse, donc il part de Martigny. Et puis, au bout de 7-8 km, on a la 4 voies. Et puis on redescend par une 4 voies, donc sans grand intérêt. Par contre, où il y a de l'intérêt, c'est quand on quitte Aoste par... Alors, je ne sais pas si c'est une route romaine, une ancienne route ou quelque chose, mais c'est une route, on va dire, qui est sur la droite quand on regarde la carte, donc rive gauche de la rivière, et qui arrive juste au moment où la quatre voies commence. Et tout de suite, on tourne à droite et on continue par l'ancienne route. Mmh. Donc, c'est un col qui est... moi, j'aime bien les grands cols comme ça parce qu'on... On vit en 2-3 heures un grand moment de géographie. On part dans les vignes et on finit dans la neige. Et alors, le col du Grand Saint-Bernard est un lieu éminemment touristique. Il y a bien sûr un élevage de Saint-Bernard. Donc, jamais il y a utilisation du Saint-Bernard maintenant. Mais enfin, on conserve l'élevage. Il y a un petit lac pour que monsieur et madame fassent un petit tour à pied autour. Et puis, il y a un hôtel qui a remplacé l'hospice. Mais il reste une trace quand même de l'hospitalité, puisque les marcheurs et les cyclistes peuvent être hébergés en dortoir gratuitement. Enfin, c'était comme ça il y a une dizaine d'années. Peut-être pas changé beaucoup.
Oh, non, on n'est pas une époque vénale, donc ça doit être encore le cas.
Donc, pour aller dans le Val d'Aoste, je vous conseille le petit Saint-Bernard, beaucoup plus économique et plus écologiste et plus agréable que le tunnel du Mont-Blanc.
Par contre, le grand Saint-Bernard, c'était le passage de Napoléon.
C'était le passage de Napoléon.
Avec ses fameuses troupes, ses chiens, son artillerie, ses traîneaux, ses voitures. C'était à la même époque où il avait fait raser le fort de Bar, d'ailleurs, un peu plus loin, hein, qui avait été reconstruit 30 ans après le fort de Bar, qui est quelque chose de magnifique. Hein.
Ah, je ne connais pas.
Qui sert maintenant de musée alpin, c'est une splendeur. Comme conception.
C'est dans le Val d'Aoste.
Oui, bien sûr. Il gênait monsieur Napoléon qui l'avait fait.
Donc, c'est pas que de maintenant que ça date.
Non, mais quand il avait passé avec ses, on dit, avec 50 000 hommes, 10 000 chevaux, 750 mulets, 49 traîneaux, et l'hospice dont tu parlais avait dû fournir des tonnes de vin, de fromage, 3498 livres de fromage exactement. Du riz, enfin bon, du pain, etc., etc.
C'est vrai, ça passait pas inaperçu, je pense.
Tout à fait. On va écouter une première chanson d'une chanteuse, Maura Susana, qui est la chanteuse de la Vallée d'Aoste. Alors, Maura Susana, pourquoi on parle du Val d'Aoste et pourquoi on parle de Maura Susana? Parce que dans le cadre de nos troisième édition de Chansons et Paroles de Femmes, on l'a invitée et on va donc la voir le 7 mars à Bourgoin. On la connaît, on a fait une soirée, on avait organisé avec une association locale en Vallée d'Aoste une soirée avec des artistes français de la Vallée d'Aoste. Et donc on va l'entendre dans un premier titre, Terra Mia, Madre Mia, ma terre, ma mère, en fait, c'est une chanson qu'elle a écrite après le sommet de Copenhague. On parle beaucoup du futur sommet de Paris relative à l'écologie. Mmh. Et le sommet de Copenhague, qui était destiné à faire des grands bouleversements écologiques.
Je m'en rappelle plus du tout.
Et pour cause, parce que rien ne s'est passé.
Puis rien ne se passera, je pense.
Donc elle était tellement déçue qu'elle avait fait cette chanson très dédiée à l'écologie et à sa terre notamment. Donc Maura Susana, Terra Mia, Madre Mia.
Verrà a riscaldare il tuo viso, nulla potrà più far male, perché tutto un giorno cambierà. Non morire perché terra mia, sarà terra mia, madre mia. Cresceranno in te la speranza e il coraggio di amare di più.
Voilà, Maura Susana, dont on reparlera et tout à l'heure et à la prochaine émission. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire du Val d'Oste, qui est assez riche, avec des époques très différentes et, on va dire, un peuplement très différent. On pourrait parler, par exemple, des Salas, puisque c'était leur nom, qui était là au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un peuple qui était, on dirait, un peuple gaulois, celto-ligure, qui serait apparenté aux Allobroges qu'on connaît bien ici. D'ailleurs, les Salas, il y a un vin en Valais d'Oste qui s'appelle toujours le vin des Salas. Ensuite, chronologiquement, bien sûr, il y a eu la romanisation, c'est-à-dire que les Romains avaient un œil sur cette région et ils considéraient les Salas comme des rustres, comme un peuple russe. Puis, ils ont donc été poussés à conquérir cette région de la vallée d'Aoste, surtout pour les cols alpins dont parlait tout à l'heure Serge, parce que c'était des moyens de communication tout simplement, puis pour développer l'empire, et c'était idéal. Et la vallée d'Aoste était devenue une partie importante de l'empire romain, notamment la ville d'Aoste, et c'est pour ça que en Valais d'Oste, il y a beaucoup de vestiges romains, l'Arc de Triomphe d'Aoste, il y a le pont romain de Saint-Martin, il y a des voies romaines. Enfin, la région est richissime en vestiges romains. Plus tard, il y a eu le contrôle des Burgondes, et puis il y a eu l'introduction des Germains du Valais. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a encore une petite région de la Vallée d'Aoste, un petit coin de la Vallée d'Aoste qui parle l'allemand. La Vallée d'Aoste, qui est petite, hein, c'est une région qui a 120 000 habitants, qui a 3200 mètres carrés. C'est la plus petite région d'Italie. Ensuite, il y a eu un rattachement à la France. Bon, elle a fait partie des comtes de Savoie. Après, elle a été rattachée à la France en 1802. Et puis, elle a été restituée au royaume de Sardaigne en 1814. Et puis, rattachée au royaume d'Italie en 1860-61. Et d'ailleurs, la vallée d'Aoste avait été peinée par le rattachement de la Savoie à la France en 1860, car c'était des régions qui avaient beaucoup d'échanges économiques, notamment. Pardon, c'est l'hiver qui commence. Et puisque entre Savoie et vallée d'Aoste, il n'y avait pas moins de 9 cols qui permettaient de passer de l'un à l'autre, le col de la Seine, du Nivolet, de Rennes, on va pas tous le col du Géant, on va pas tous les citer, et puis il y avait des pistes qui permettaient là aussi le passage du bétail. Alors maintenant, la région est une des 5 régions italiennes à statut spécial, comme l'est le Frioul, la Sardaigne, la Sicile, et une région, si on peut dire, c'est-à-dire un regroupement de 2 provinces, celle du Trentin et du Haut-Adige, donc ce statut spécial qui a certains ministères régaliens et d'autres, notamment en fiscalité, ils sont autonomes au niveau de leur fiscalité, quasi... Pardon, 90%. Alors, elle est constituée, la vallée d'Aoste, d'un conseil régional de 35 conseillers qui sont élus au suffrage universel pour 5 ans, qui élisent un président qui est responsable envers le gouvernement italien de la bonne marche de cette région à statut spécial. C'est une région qui a beaucoup d'attraits touristiques, notamment bien sûr la montagne, mais aussi beaucoup d'églises, de cloîtres, de châteaux aussi. Alors les châteaux de la vallée d'Aoste sont évidemment très connus, je pense, château Fénis notamment, château d'Arnat, de Morges, de Donas. En fait, à l'origine, c'était des systèmes de défense, hein, aussi bien pour les Salas, les Romains, et après il y a eu les tours de guet, et puis le château proprement dit, il apparaît plutôt au XIe siècle, avec la féodalité, c'est plus simplement des tours de défense, mais des lieux d'habitation du seigneur, donc avec une chapelle, des murailles de plus en plus amples, et puis évidemment sur des hauteurs pour être le plus inaccessible possible. Après, il y a eu le château style gothique, et puis donc au fil des siècles, notamment 19e, il y a eu le fameux château dont on parlait tout à l'heure, Bar, le château de Bar qui a été reconstruit après la destruction qu'en avait fait Napoléon. Excusez-moi. Donc les châteaux les plus importants de la vallée d'Aoste, on parlait de Fénis, mais il y a aussi Issogne, Verès, Ussel. Et quelquefois, ils servent d'exposition, quelquefois de musée, et puis ils servent aussi de cadre à beaucoup de manifestations culturelles, notamment des concerts d'été, qui sont en général relativement sympathiques. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ces châteaux si vous allez en vallée d'Aoste. Alors, une autre caractéristique de la vallée d'Aoste, c'est sa langue. Parce que quand il y a eu l'unité italienne, l'Italie évidemment a imposé la langue italienne, mais tout en conservant bien sûr les langues régionales, mais la langue officielle italienne était imposée. Donc en Val d'Aoste, cela n'a pas vraiment plu, puisque 20% de la population avait immigré en Suisse et en France, puisque certains, comme on le disait tout à l'heure, pratiquaient la langue française. Et puis, on a imposé cette langue italienne par l'école, évidemment, et on utilisait l'italien dans la fonction publique. Mais après l'unité, la langue italienne a été certes imposée, mais plus tard, la langue française a été maintenue, notamment dans les écoles, puisqu'il est conseillé, d'ailleurs, notamment dans les services publics, de parler le français. Mais en fait, la langue, on va dire, véhiculée en Vallée d'Aoste, c'est-à-dire celle qui permet les échanges de tous les jours, c'est le patois, le franco-provençal. On va écouter Maura Susanna en franco-provençal, puis on reviendra à cette langue après.
Senza un collo profondo, senza façon de penser, senza tutto per il mondo, senza tenga o lo sa, senza l'uomo son troppi, ed è come tutti i zanzi, che mi zanzo e padrone, senza pietre più presciute. De mamma scen lie, senza un nino rossignol, senza l'amo della mano, senza un semello passan, nemo sei e porte dan, e vi come tutti senza, che me senza e padrono. Zanze, tutti zanze, zanze curse lo solei, allo neve andarvi, zanze la pianta sa foglia, cai a reveli foresce, zanze pei cola miei, zanze pei in coca rupei.
Oui, alors Maura l'a chanté en patois. Patois écrit d'ailleurs chez en Vallée d'Os, P-A-T-O-U-A, accent. Et c'était un texte de Louis de Jarriot et de Maura Suzanne, réadapté. Louis de Jarriot qui écrit beaucoup en patois. Alors Maura Suzanne chante effectivement en italien, de ses compositions personnelles, et beaucoup en ce fameux patois franco-provençal. Elle chante quelques chansons parfois en français, où elle adapte notamment des écrivains, des poètes français en chansons, mais surtout en patois et en italien. Donc ce patois, en fait, c'est ce franco-provençal, c'est une langue romane de la famille indo-européenne, qui est pas attaché au dialecte qu'on qualifie d'italo-roman comme le français et le provençal, mais qui est rattaché au dialecte gallo-roman. Il ne s'agit donc pas d'un mélange de français et d'occitan, mais d'un groupe linguistique différent. Les langues franco-provençales sont donc à mi-chemin entre la langue d'Oyle et la langue d'Oc, ce qu'on vous avez sans doute entendu, dont vous avez sans doute souvent entendu parler à l'école. Et dans les années 70, ce fameux patois franco-provençal est apparu dans la vallée d'Ost sous un nouveau terme, on l'a appelé l'arpitan. L'arpitan parce que de la racine harpe pour Alpes, et puis il lui fallut une désignation, c'est pour ça qu'on l'a appelé arpitan. Voilà. Cette langue, c'est une sorte d'identité pour la vallée d'Aoste, et ils y tiennent. Et c'est aussi une langue qui est parlée, c'est une langue transfrontalière, on peut dire, parce qu'elle est parlée en Suisse romande, elle est parlée au sud du Jura, dans le Bugey, en Pays de Gex, en Franche-Comté, dans la Bresse, dans le nord Dauphiné, c'est-à-dire dans notre région, dans les Vallées alpines du Piémont, mais du Piémont également. Et dans notre région, cela nous avait donné l'occasion, quand on avait été chez eux, de faire une soirée autour de cette langue avec un groupe d'ici, l'Omagno Tarible, et qui malheureusement a perdu plusieurs de ses membres. Et pourquoi on avait fait ce rapprochement? C'est parce que il est dit que, et c'est une recherche auquel avait été confronté ce groupe, que cette langue est également parlée dans les Pouilles, ce franco-provençal, dans deux villages, Faete et San Vito. Les Pouilles, c'est très loin, hein, c'est pas du tout frontalier, et donc c'est en la partie montagneuse des Pouilles. Alors on dit que, l'hypothèse la plus courante, enfin tout au moins la plus véhiculée plutôt, que des soldats originaires du Dauphiné avaient été envoyés par Charles d'Anjou pour combattre des mercenaires pendant les guerres papales. Mais il semblerait que l'une des autres voies soit la piste vaudoise, c'est-à-dire que vers 1400, suite à la rigueur de l'Inquisition, les Vaudois s'étaient enfuis dans les hautes vallées du Piémont et puis ils fondèrent des colonies qui allèrent jusque dans les Pouilles, dont Faeto et San Vito. Voilà deux explications. Enfin, c'est quelque chose de très étonnant quand même, cette histoire de franco-provençal. Ensuite, sur ce bilinguisme, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ce bilinguiste est parlé, enfin je parle du bilinguisme français franco-provençal, a été remplacé par le bilinguisme italien franco-provençal, même si le français est encore un parlé, on le disait, mais avec l'immigration, comme on disait tout à l'heure avec Serre, c'est-à-dire les nouveaux habitants, ceux qui sont partis, et puis l'âge, bien sûr. Mais dans une enquête récente, on dit que 71% des Valdetains disent que dans leur quotidien, ils parlent italien, 16% disent qu'ils parlent le franco-provençal. Alors, ils parlent de ce... cette locution, cette façon de parler, surtout à l'extérieur de chez eux. En revanche, quand ils disent parler chez eux, ils disent que 45% disent parler l'italien, 35% disent parler le fameux patois et 10% d'autres dialectes italiens, puisqu'ils viennent d'autres régions d'Italie, et 10% d'autres langues, dont le français. Bon, ça vaut ce que ça vaut, comme enquête, mais tout ça pour dire que le franco-provençal, le patois, est quand même très, très encore en vigueur. Il y a toujours des écoles, d'ailleurs, et des manifestations en franco-provençal, et des journaux en franco-provençal, et des chansons, puisqu'on en a entendu. Et il y a même les concours Serlogne, qui était un des personnages qui avait écrit beaucoup d'œuvres en patois. Et il y a les concours Serlogne qui sont encore en vigueur et qui récompensent, notamment en milieu scolaire, tout écrit en franco-provençal. Voilà donc pour l'aspect linguistique. Pour continuer en chanson, on va écouter Evelyne Parouti. Alors Evelyne Parouti, c'est en fait elle est toujours une Française, elle vient de la région parisienne, elle s'est installée en Vallée d'Aoste depuis de très 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 nombreuses années, elle était amoureuse de cette région. Elle écrit des bouquins, elle écrit des poésies et elle chante aussi, elle chante ses propres textes. Et on va donc l'écouter dans un de ses titres. Et Evelyne Parouti sera invitée aussi dans notre chanson de femme du 7 mars. Et on va l'entendre dans une interprétation de Le Petit Sentier.
Petit sentier de l'amitié, celui qui mène à nos années où nous rêvions d'un monde heureux. Le petit sentier de l'amitié, un beau matin, s'en est allé sur le chemin du lendemain. Il est arrivé à la croisée de nos idées, de nos pensées, a décidé de s'envoler. Et d'un petit signe de la main, nous a salués comme un copain et doucement nous a laissés pour découvrir des paysages au galet d'or sur les rivages et des maisons de pain d'épices. Dans le royaume des délices, pour se poser sur des nuages, où s'amusent les enfants sages, et pour courir dans l'herbe tendre, de jouer avec les salamandres, pour retrouver tous les parfums, du géranium jusqu'au jasmin, pour découvrir tout simplement que la vie passe tout gentiment, et pour rêver d'un coin de terre l'on ne parle pas de guerre, et pour enfin se reposer à l'ombre d'un grand olivier. Et voilà pourquoi un beau matin, il avait l'air un peu chagrin, le petit chemin de l'amitié, dont Tristounet nous a laissé, a disparu dans la forêt avec ses copains et lapins, pour rapporter tout plein d'images, nous raconter tous ses voyages, du bord de mer jusqu'au Tibet, en trottinant sur un beau déglanant des champs à travers les champs, cueillant coquelicots et bleuets sous un ciel bleu, l'air tout heureux, dans ses bagages tout plein de pages écrites à l'ombre des grands pins, et nous ravir jusqu'à demain de ces histoires d'un air malin, en buvant du sirop d'orgeat, nous raconter des poissons-chats, des écureuils dans les sous-bois, et nous enivrer de chansons de notes qui valent et s'en vont. Le petit sentier de l'amitié, celui qui mène à nos années où nous rêvions d'un monde heureux. Le petit sentier de l'amitié, un bon matin, est revenu pour nous dire qu'il avait tout vu.
Voilà Evelyne Parouti que vous découvrirez le 7 mars aussi à Bourgoin, donc avec Maura Suzanne. Pour revenir à la Védoste, on pourrait aussi parler de ses traditions, de son agriculture, qui est très marquée encore, bien sûr, de son artisanat. Alors, on va pas tout citer, mais par exemple, ils ont un fromage qui est un peu connu en France, d'ailleurs, la Fontina, qui est très... très très connu, hein. Ils ont aussi le fromazzo qui est une tome qui se fromazzo, on sent le nom fromage dedans, et puis beaucoup d'artisanat. Il y a une très célèbre foire le fin janvier, la foire de Saint-Ours dédiée au bois, bien sûr. Le bois est toujours très 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 présent dans l'artisanat, avec des coffrets, avec des statuettes. Alors le bois, bien sûr, puisque la présence du noyer, du pin, des érables, du sapin, des frênes, des hêtres, tilleuls, bouleaux, permet beaucoup de réalisations. Un des articles d'artisanat les plus connus, c'est la grolle. Alors la grolle, en fait, c'est un espèce de récipient qu'on partage ensemble pour boire notamment de l'alcool, surtout du vin. Et peut-être que d'ailleurs le nom est dérivé de Graal, et qui a de 2 à 12 becs, et chacun boit un de ses becs. Enfin, c'est un moment qu'on boit à un de ses becs, pardon. C'est un moment convivial, on va dire. Dans les fêtes, il y a aussi la monterne alpage pour la Saint-Bernard le 15 juin. Et puis, il y a aussi la fameuse fête de la bataille des rennes. C'est un combat entre vaches qui attire une foule incroyable. Et puis, il faut désigner celle qui domine, censé dominer le troupeau. Et une des plus célèbres, c'est celle de Vertotzan, qui a été chantée d'ailleurs par le poète dont on parlait tout à l'heure, Serlogne. Sinon, il y a bien sûr des fêtes religieuses, il y a le carnaval, il y a des foires. Dans les produits, il y a aussi le lard d'Arnade, qui est très très bon, une espèce de lard blanc. Il y a des viandes, comme la viande séchée de chamois. Il y a des miels qui sont excellents, miel de rhododendron, par exemple, ou les miels de fleurs de montagne. Il y a le vin, le chambave est un des très bons vins de la vallée d'Aoste. Il y a beaucoup de jeux traditionnels aussi qu'on trouve guère ailleurs en Europe et guère ailleurs en Italie d'ailleurs, comme ce jeu du tsan, qui est une sorte de, pas de baseball, ici ça ressemble à rien d'autre en fait, et c'est assez spectaculaire assister à un championnat de tsan et une partie de tsan. Voilà, enfin, beaucoup d'atouts pour cette petite région de Valle d'Aoste, si caractéristique pour son histoire et pour sa langue, hein, notamment ce fameux dialecte gallo-roman, comme le français et le provençal, mais qui est l'arpitan maintenant, puisqu'on l'appelle comme ça. Donc, je vous encourage à venir à écouter Maura Susanna et Evelyne Parouti. Après le concert, d'ailleurs, vous pourrez discuter de tout ça avec elles. Mais on les réécoutera sur 97.1 sur Couleur FM. Voilà. J'ai quelques petites manifestations, une rencontre plutôt, dont je voulais vous parler. Le 24 janvier 2014, à la librairie Majolire de Bourgoin, à 14h30, donc en bas de la rue Piétonne, vous avez une rencontre qui va être intitulée « Rire ensemble avec Boccace, rire ensemble ». Tiens, voilà un bon thème pour 2015. Alors Giovanni Boccaccio, dit Boccace en français, était né en 1313, il a disparu en 1375. On peut dire qu'avec Dante et Pétrarque, c'était un des fondateurs de la langue italienne. Il était romancier, poète, on pourrait le qualifier quasi de chroniqueur, parce que il écrivait tout ce qui se passait autour de lui, les scandales de l'époque, de la cour, la peste, les corruptions, que ce soit les corruptions civiles ou de l'Église, des choses qui n'existent pas du tout maintenant, bien sûr, mais qui étaient présentes à cette époque. Et bon, sa nouvelle la plus célèbre, sa principale œuvre, c'est le Decameron, qu'il avait écrit de 1350 à 1354, donc qui sont 100 nouvelles dans lesquelles il écrit en italien et non en latin comme c'était la coutume jusqu'alors. Là, il y parle d'amour de façon érotique ou tragique. Et il rompt dans cette œuvre avec la morale chrétienne et avec tous les tabous qui dominaient à l'époque. De ce Decameron, il y a eu un film notamment qui a été tiré par Pasolini, le cinéaste italien, en 1970. Et je crois qu'il était paru en 1971 en France. Voilà. Je vous conseille aussi, en vous adressant soit à Inis, inis@adsl.fr, soit à Couleur FM, qui vous redonnera l'adresse, le cahier qui avait été édité par Inis il y a quelques années sur le rattachement de la Savoie à la France et sur la vallée d'Ost, justement. Ce cahier existe encore. Si vous voulez vous le procurer, vous nous contactez et on se fera un plaisir de vous le passer à prix tout à fait modique. Donc il a été écrit par Jean Guichard et il s'appelait Promenade dans le Val d'Ost. Jean Guichard qui animera bien sûr la rencontre dont on parlait tout à l'heure sur Bocas. Voilà, mais je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et puis on va finir par quelques notes de Ou Noir Mon In Blues de Pino Daniele et dont on rappelait tout à l'heure malheureusement la disparition. Bonne soirée à tous et puis excusez-moi pour la voix.
La gente che cosa fa? Quel sole in faccia.